L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour Nicolas.
On va parler reconstruction et relance de l'économie ce matin. Vous êtes avec le directeur de la mission interministérielle.
Oui, notre invité du matin, c'est Amaury Declude. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation alors que vous terminez votre séjour sur le territoire. On y reviendra. Mais d'abord, une question que tout le monde se pose. La Calédonie est-elle vraiment en cessation de paiement, comme l'a déclaré le président du gouvernement il y a quelques jours?
L'État, dans la loi de finances pour 2026, prévoit un financement de la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 51 milliards de francs CFP, 44 milliards de prêts, 7 milliards de subventions. Aujourd'hui, 16 milliards de ces francs pacifiques ont été décaissés. C'est une somme considérable qui permet de financer le budget des collectivités, la retraite, le RUAM. Donc aujourd'hui, il y a dans la marge, dans les financements de l'État restant prévus pour financer le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Ces financements font l'objet de discussions avec le président et nous avons une réunion demain pour pouvoir avancer et permettre un décaissement d'ici la fin du mois.
C'est-à-dire que les 13 milliards qu'il faut trouver, qu'il dit qu'il faut trouver, on va les trouver, on les a.
En tout cas, ils sont prévus en loi de finances.
Alors quel est le problème en fait? Il y a quand même, la Calédonie a quand même des problèmes de financement importants, notamment d'ici la fin de l'année, il va falloir trouver encore quelques milliards.
Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, elle ne dépend que de l'État pour son financement. Les banques commerciales ne lui prêtent plus, contrairement à d'autres collectivités, notamment par exemple aux provinces et aux communes. Donc aujourd'hui, l'État est vigilant quant aux besoins de financement de la Nouvelle-Calédonie. L'objectif étant de faire en sorte que dans l'enveloppe qui est prévue en loi de finances, la Nouvelle-Calédonie puisse se financer son système social et son budget.
Alors on sait qu'il y a une délégation, une mission transpartisane qui doit partir à Paris dans quelques jours. Elle va pouvoir, ça va être son rôle de négocier auprès de l'État et des différents ministères cette aide financière pour préparer le budget 2027?
Alors, je ne dicte pas le mandat de la délégation transpartisane. Nous, on est en dialogue régulier avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, avec les groupes politiques au Congrès. Mon objectif, en tant que directeur de la mission interministérielle, ce sera de préparer tous les éléments utiles aux ministres que rencontrera la délégation transpartisane sur ces sujets de finances publiques.
L'objectif, c'est quand même de trouver comment terminer l'année et comment préparer l'année 2027.
C'est effectivement les deux enjeux principaux. Le Premier ministre a décidé, dans le cadre du pacte de refondation qu'il a annoncé en février dernier, de proposer aux Calédoniens un contrat financier pluriannuel qui permettrait d'avoir une visibilité sur les financements de l'État sur la période 2027-2030. C'est une proposition qui est maintenue. On a transmis de premiers éléments au gouvernement de Nouvelle-Calédonie pour commencer à échanger sur ça. Si on pouvait essayer d'avoir davantage de visibilité sur les financements de la Nouvelle-Calédonie, ça permettrait d'engager des réformes de manière sereine sur la durée du mandat et d'assurer des financements de l'État pendant cette période de transition et de rétablissement des comptes publics.
Parce que 2030, ça doit être la période dans laquelle la Calédonie est autonome financièrement, dans laquelle elle arrive à résoudre toute seule ses problèmes?
Je pense qu'il faut aller pas à pas. On va commencer par les besoins de financement 2026, la négociation du contrat financier pluriannuel 2027-2030. Si en 2030, on a atteint un rétablissement des comptes publics, on aura atteint l'objectif.
Alors les élus, en attendant, enfin certains élus accusent l'État de ne pas avoir tenu ses engagements d'ores et déjà, notamment sur la transformation des prêts en subventions. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y avait eu un engagement pris dans ce domaine?
Aujourd'hui, à court terme, je pense que le sujet est moins un sujet de dette que de déficit de la Nouvelle-Calédonie. Si on la rapporte au PIB, comme on le fait pour les États souverains, la dette de la Nouvelle-Calédonie représente 27% du PIB, ce qui reste très raisonnable par rapport aux 110% de la France. Aujourd'hui, le sujet, c'est que la Nouvelle-Calédonie a des recettes qui sont très insuffisantes par rapport à ses dépenses. Et c'est ça d'abord qu'il faut réussir à combler. Ensuite, s'agissant de la transformation de dette en subvention, les Calédoniens voudront probablement en parler dans le cadre des discussions sur le contrat financier pluriannuel. Et ce sera un sujet qui sera donc d'actualité pour la visite de la délégation transpartisane.
Mais alors, de votre point de vue, quelles sont les réformes crédibles, quelles sont les réformes que l'Académie devrait lancer pour justement résorber ce déficit et avoir des recettes plus importantes?
Alors, l'État, vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie, se positionne en tant que financeur. Donc, ce n'est pas à lui de dicter des réformes.
Vous êtes un peu conseil comme directeur de la mission interministérielle, non seulement interlocuteur?
si les Calédoniens le souhaitent, on peut fournir des conseils. Mais en tout cas, on n'a pas vocation à être une tutelle de la Calédonie. Je vais prendre un exemple concret. Votre banquier, il attend que vous remboursiez votre prêt. Il n'attend pas que vous preniez tel ou tel emploi. C'est un peu la même chose vis-à-vis de l'État et de la Nouvelle-Calédonie. L'État n'attend pas que la Nouvelle-Calédonie fasse telle ou telle réforme. Il attend qu'elle ait une trajectoire de rétablissement de ses comptes publics.
Est-ce que d'ores et déjà, vous avez l'impression, est-ce que les mesures qui ont été prises avant peut-être les élections ou les projets qui existent aujourd'hui dans les tiroirs vous semblent aller dans le bon sens ?
Aujourd'hui, il y a notamment deux réformes qui sont sur le bureau du Congrès et qui sont intéressantes. La réforme du RUAM portant économie de santé, la réforme des retraites, c'est des choses qui vont dans le bon sens. On travaille avec les groupes politiques au Congrès, avec le GNC, pour voir sous quel calendrier ces réformes peuvent être votées puis menées à bien.
Alors depuis le 28 juin, il y a eu un changement évidemment dans les assemblées de province, au Congrès, au gouvernement. Vous avez dû reprendre les contacts avec de nouveaux interlocuteurs ou globalement, vous avez retrouvé un certain nombre de gens que vous connaissiez déjà ?
On a des personnes qui ont changé de portefeuille. En tout état de cause, le mandat est différent. C'est-à-dire qu'il y a eu des élections entre-temps, il y a eu une campagne électorale entre-temps. Donc on reprend contact et on définit une nouvelle route.
Alors parlons du plan de relance de l'État avec deux vagues d'ores et déjà. La deuxième vient d'être rendue publique. Où en est la réalisation de la vague 1 ? Est-ce que tous les projets sont lancés ou pas encore ?
Alors, le plan de relance, c'est un effort exceptionnel qui est mis en place par l'État vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. C'est 24 milliards de francs CFP qui doivent être engagés d'ici la fin de l'année pour relancer l'économie calédonienne et notamment le secteur du BTP. Aujourd'hui, les vagues 1 et les vagues 2, c'est 17 milliards qui ont été préfléchés. La vague 1, elle commence à porter ses fruits. Nous avons 28 chantiers sur les 54 projets de la vague 1 qui ont commencé ou qui vont commencer de manière imminente. Je prends quelques exemples. Le pont de la Tontouta, la commande a été passée. La route entre Kalagomen et Yengen, les travaux sont en cours. Idem pour le centre d'incendie et de secours du Mont d'Or.
Ça, c'est pour la vague 1. Et dans la vague 2, alors comment ont été choisies les opérations, puisque c'est l'État a son mot à dire dans les projets qui vont être réalisés.
La façon dont ça a fonctionné, c'est que nous avons fait un appel à projet vis-à-vis de l'ensemble des collectivités calédoniennes en leur disant « Montrez-nous des projets qui sont mûrs, qui peuvent commencer avant le 31 décembre 2026 et qui répondent à des priorités de politique publique, le désenclavement, les services essentiels, la diversification de l'économie, la lutte contre les effets du réchauffement climatique. » Ensuite, on a eu des très nombreux échanges au niveau du Haut-Commissariat, au niveau des commissaires délégués, avec les collectivités pour faire mûrir ces projets. Et les projets qui ont été sélectionnés sont ceux qui nous ont paru les plus mûrs et ceux qui répondaient le plus à un intérêt public.
Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de projets de désenclavement, entre guillemets, c'est-à-dire beaucoup de routes, beaucoup de ponts, alors que ce n'est pas forcément les chantiers qui créent le plus d'emplois. Contrairement aux bâtiments, comment ça se fait ?
Nous, notre souhait, c'est qu'il y ait un équilibre, c'est-à-dire que toutes les entreprises du BTP puissent trouver un travail. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, l'autre chose, c'est de répondre aux priorités qui sont identifiées par les élus, qui connaissent les besoins de leurs habitants. Aujourd'hui, on a de l'ordre de 6 milliards du pacte de refondation qui vont vers le bâtiment et 6 milliards qui vont vers la voirie. Donc c'est globalement équilibré. On a plus de projets de voirie parce qu'ils coûtent généralement un peu moins cher que certains projets de bâtiments emblématiques, comme ceux de la rénovation du lycée Escoffier ou du lycée de Pointe-Bout.
Et puis les dossiers sont peut-être plus rapides, plus simples à faire.
Exact.
Et tout doit être lancé avant la fin de l'année pour la vague 2. Hein.
Exact. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que ce qu'on martèle vis-à-vis des maires, c'est qu'il y a des financements de l'État pour leurs projets de plus long cours. Mais sur le plan de relance, c'est vraiment pour relancer l'économie et l'économie n'attend pas.
Et alors la vague 3, parce qu'on est toujours impatient forcément, la vague 3, elle va être lancée quand et dans quel délai elle devrait être réalisée ?
Aujourd'hui, la priorité, c'est d'abord la réalisation des chantiers de la vague 1 et de la vague 2. La vague 1 et la vague 2, c'est 17 milliards de francs. Aujourd'hui, sur ces 17 milliards de francs, il n'y a que 5 milliards qui sont engagés. Donc, ce qu'on explique au commissariat, mission interministérielle, commissaire délégué, c'est qu'il faut passer de 5 milliards à 17 milliards. Il y aura une vague 3. L'ampleur de cette vague 3 dépendra de la capacité des maîtres d'ouvrage à être en mesure d'engager rapidement les travaux. On veut éviter les engorgements et de l'argent qui dort.
Alors un point important dans le plan de refondation, c'est bien sûr le secteur du nickel. Il était prévu d'investir dans un modèle durable pour le nickel et il fallait élaborer ce plan de transformation de la filière au premier semestre. On n'est pas dans les temps, finalement on a pris du retard.
Je pense que les acteurs calédoniens, en lien avec la mission, ont préféré privilégier des actions concrètes en faveur du retour à la rentabilité du nickel. Une action concrète qui a été adoptée par le Congrès, c'est l'export de minerais en RGM dès lors qu'ils n'étaient pas économiquement transformables sur l'île. Donc ça, c'est une grosse avancée qui permet de confirmer l'intérêt de certains repreneurs pour les usines de métallurgiques.
Justement, les reprises, on en est où ? Vous suivez les dossiers KNS, PRNC ?
S'agissant de PRNC, l'État est en première ligne, il bénéficie d'une fiducie de la part des autres actionnaires. Les négociations sont bien avancées avec un repreneur qui est un fonds émirati. S'agissant de KNS, l'État n'est pas actionnaire de KNS, nous ne sommes pas en première ligne. Et ensuite, s'agissant de la SLN,
voilà, parce là, que l'État la SLN est également, vous suivez la reprise. Hein.
S'agissant de la SLN, effectivement, l'État est un actionnaire important d'Eramet, qui est l'actionnaire de la SLN. Et à ce titre, on engage des discussions avec une entreprise métallurgique indienne qui s'appelle Jindal, qui vient en Nouvelle-Calédonie cette semaine.
Qu'est-ce que vous regardez, enfin, que regarde l'État concernant les repreneurs qui sont intéressés par les trois usines, finalement, de Nouvelle-Calédonie ?
Alors, ce qui est primordial pour nous, c'est d'éviter un projet de reprise qui, au bout de 2 ans, s'avère non viable. Donc d'abord, la première chose, c'est la crédibilité du projet industriel. La deuxième chose, c'est qu'on a la conviction qu'il est essentiel que la Nouvelle-Calédonie conserve une industrie métallurgique. Donc le deuxième objectif, c'est assurer le maintien de la métallurgie sur le territoire calédonien. Troisième objectif, il y a des intérêts qui sont financiers et stratégiques pour la Calédonie, l'État et l'Union européenne. Il ne faut pas oublier l'Union européenne qui a une stratégie pour les métaux critiques. Et évidemment, ces intérêts, on doit les préserver pour la Nouvelle-Calédonie, pour la France et pour l'Union.
Ça veut dire que l'État pourrait éventuellement s'opposer à certains repreneurs si ces conditions n'étaient pas réunies.
Aujourd'hui, on n'en est pas là. Il faut d'abord discuter sur les projets de reprise.
Et vous y croyez ? Enfin, je veux dire, vous avez des éléments qui vous font dire qu'il va y avoir des repreneurs pour les trois usines ?
Sur SLN et PRNC, on sait qu'il y a des repreneurs. Les discussions sur PRNC durent depuis de longs mois. Donc ça veut dire qu'on a un intérêt dans les discussions qu'on mène avec le repreneur potentiel NBM. S'agissant de SLN, il y a eu un courrier du ministre de l'Économie et des Finances qui accepte d'engager des discussions avec l'Indien Jindal. S'agissant de KNS, là-dessus, on lit la presse, on voit qu'il y a des projets de reprise. J'ai un échange prochainement avec le président directeur général de la SMSP pour en discuter.
Dernier point sur lequel on souhaitait vous entendre, Amaury de Clute, c'est un autre pilier du plan de refondation, l'investissement dans la jeunesse. Déjà, des actions ont été entreprises ?
Alors, la jeunesse est une priorité pour le Premier ministre. Ça fait partie des piliers du pacte de refondation, avec de l'ordre de 8 milliards de francs qui sont donnés aux collectivités sur 5 ans pour aider la jeunesse, à la fois via le financement de 100 postes d'éducateurs spécialisés et le financement de 1000 parcours pour des jeunes, notamment des jeunes en situation de décrochage scolaire ou de décrochage professionnel. Il y a des réalisations concrètes. J'étais avec la présidente de la province sud dans une école à Nouméa il y a une dizaine de jours maintenant pour présenter le dispositif Bien avec mon école. Ce dispositif, c'est cette année de l'ordre de 26 éducateurs spécialisés, donc des enseignantes, des orthophonistes, des infirmières qui renforcent 9 écoles pilotes en province sud. À terme, en 2027 et les années suivantes, ce sera 33 postes qui seront financés par l'État sur ce dispositif. Samedi, j'étais à l'inauguration du pôle jeunesse à Nouméa. Le pôle jeunesse de Nouméa, il est très fortement soutenu par l'État et notamment, il bénéficie de 2 postes financés intégralement par le plan jeunesse.
Amaury de Clute, vous êtes là depuis quelques jours maintenant. Vous repartez très bientôt, en fait.
Je repars mardi, mais évidemment, je reste en contact avec les élus calédoniens et je reviendrai très prochainement sur le territoire.
Vous les suivrez pendant la mission transpartisane à Paris ? Vous serez présent à ce moment-là ?
Bien sûr.
Et vous revenez très... Vous ne savez pas quand encore. Mais...
Ça reste à déterminer.
Merci en tout cas d'accepter votre invitation ce matin.
Merci à vous.